Bon, eh bien, bonjour. Voilà, ça fait plaisir de reprendre cette activité d'enseignement après un an de vacances, pas vraiment des vacances, mais cette sorte d'année sabbatique dont les professeurs peuvent profiter tous les 7 ans. C'est aussi une véritable opportunité pour réfléchir à d'autres cours. Alors, dans le passé, alors ici, vous avez le programme. Je ne suis pas sûr de pouvoir le suivre tel que c'est indiqué là, mais enfin, on va faire un voyage sur cette question des petites molécules et de la catalyse. Je parle de catalyse hétérogène, mais on verra que c'est une catalyse hétérogène un peu particulière dont je parle, puisque moi-même, faisant un chemin récent vers la catalyse hétérogène, c'est une approche un peu particulière dont je voudrais vous parler. Juste un petit mot. Dans toutes les années d'enseignement que j'ai eues ici au collège, j'ai associé mes cours à des séminaires. Certains s'en souviennent sans doute. Alors, ce n'est pas le cas cette année, ça sera probablement le cas l'année prochaine, sur le même thème, hein, parce que comme vous le voyez ici, c'est grand 1, parce que c'est un projet que j'ai de développer ce sujet sur 2 ans. Par contre, pour remplacer ça, il y a un événement auquel vous êtes tous invités important autour d'une question qui est essentielle pour moi et pour mon laboratoire, qui est cette question du stockage de l'énergie sur lequel je reviendrai. Et donc il y a un colloque, qui est organisé le 31 mai, le 1er juin à l'amphithéâtre Alvax, Artificial Photosynthesis and Solar Fuels. Et ce colloque a lieu avec le soutien et en lien avec un groupement de recherche national. Alors un groupement de recherche, c'est un réseau qui est financé essentiellement par le CNRS et donc qui essaye de regrouper l'ensemble des laboratoires qui travaillent dans ce domaine. Alors c'est très important de coordonner les efforts parce que, évidemment, dans ce domaine-là, qui est un domaine clé pour le développement des nouvelles technologies de l'énergie et le monde de demain qu'on doit construire. Évidemment, il est important que tout ça soit coordonné. Et lors de ces 2 journées, ce sera l'occasion de voir l'ensemble de la communauté française dans ce domaine-là, donc photosynthèse artificielle, carburant solaire, stockage d'énergie. Voilà, à travers un certain nombre de présentations, y compris avec quelques invités étrangers de très gros calibre qui viendront illustrer certains aspects de ce domaine. Alors, évidemment, j'ai un certain nombre d'obsessions qui vont revenir. J'ai, dans le passé, beaucoup parlé de catalyse enzymatique. J'ai essayé de montrer la puissance de ces enzymes et la beauté de leur site actif. Évidemment, j'ai aussi déjà parlé à diverses occasions de la puissance d'une démarche, d'une approche qui est ce qu'on appelle la chimie bio-inspirée, qui consiste à essayer de comprendre ce que dans une enzyme on peut tirer comme information pour construire de nouveaux systèmes catalytiques de synthèse. Et puis, évidemment, tout ça, je l'ai assez souvent développé dans le contexte des problèmes de l'énergie. Alors, ces obsessions-là, on va les retrouver en partie dans le cours que je vais développer pendant ces 2 années. Mais... Donc, enzymes, chimie bio-inspirée, énergie. Il s'avère que mes préoccupations personnelles et puis un certain nombre de projets qui se sont développés récemment ont fait qu'il y a eu un basculement, peut-être pas très contrôlé, mais un basculement vers une chimie qui n'est pas dans ma culture. Je suis ce qu'on appelle un chimiste de la chimie moléculaire, et un basculement vers la chimie hétérogène, la chimie du solide. Et disons que voilà, l'accès à une nouvelle discipline, c'est évidemment très exigeant, mais en même temps, quand on vient d'ailleurs, ça peut être intéressant parce qu'on a une vision peut-être un peu originale. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Mais évidemment, on est toujours confronté au fait que le risque est assez grand de faire cela, le risque de dispersion, de se diluer, de se perdre dans de multiples orientations. Donc c'est un risque. Mais pourquoi faire ça, donc ? Alors, il y a au moins trois raisons. La première raison, c'est évidemment des accidents de parcours. Je vais vous raconter comment ces accidents ont eu lieu dans mon cas, un peu une forme d'histoire. Donc, des accidents de parcours qui font que, sans prévision, sans anticipation, le projet bascule d'un projet de catalyse moléculaire homogène à un projet de catalyse hétérogène. Et alors, dans ce cas-là, j'ai fait une petite slide, c'est amusant, mais c'est vrai que dans ce cas-là, il y a deux solutions. C'est soit la politique de l'autruche, soit la stratégie d'Alice. Bah, la politique de l'autruche, c'est celle qui est souvent pratiquée, à savoir, je connais les molécules, je ne connais rien au solide, donc je fais comme si je n'avais pas vu qu'il y avait du solide dans mon système et qui, même s'il fait quelque chose d'intéressant, je passe à autre chose. Et puis, la stratégie d'Alice, c'est celle de se dire, voilà, il y a une certaine curiosité à aller voir ce qui se passe derrière le miroir, en l'occurrence, et d'aller, en effet, se plonger dans une autre discipline. Bon, et c'est ça que je vais raconter aussi en partie. La deuxième raison, c'est que, d'une certaine façon, c'est un certain crève-cœur, je dirais, pour un chimiste moléculaire, c'est que même si la chimie moléculaire a évidemment une place énorme, y compris dans l'industrie, les médicaments, ce sont des molécules, et il y a énormément de gens qui travaillent à l'élaboration à travers la synthèse organique de molécules, et parlons du domaine des polymères, par exemple, enfin, les molécules jouent un rôle extrêmement important dans notre société, donc ça va continuer. Néanmoins, ce qui est un crève-cœur, puisque j'utilisais ce mot, c'est que dans le domaine spécifique de l'énergie, des nouvelles technologies de l'énergie, où l'enjeu est quand même de produire des quantités massives de molécules, de carburant, eh bien, malheureusement, je ne crois pas que la chimie moléculaire aura directement des applications à cette échelle-là, même si, évidemment, la combinaison, et c'est bien ce qu'on fait dans le laboratoire, la combinaison d'approches moléculaires qui, on le verra, a un certain nombre d'avantages pour comprendre un certain nombre de choses quant à la réactivité des ions métalliques, de l'impact des environnements organiques, etc. Évidemment, tout ça reste important. Et puis, la catalyse homogène existe aussi dans l'industrie. Je donnerai rapidement quelques exemples. Mais disons que je crois que je suis convaincu que demain, les grands dispositifs qui seront utilisés, les électrolyseurs, les piles, etc., seront à base de solides, de matériaux solides, et que donc il faut aussi aller vers ce domaine-là. Enfin, quand on s'intéresse à l'énergie en particulier. Si je m'intéressais aux médicaments, vous comprenez bien que je n'aurais pas le même discours. La chimie moléculaire aura une place très très importante. Si je m'intéressais à certaines réactions organiques de l'industrie qui peuvent être traitées par la catalyse homogène, je ne tiendrais pas le même discours. Donc ce discours, il est vraiment très spécifique de la question des nouvelles technologies de l'énergie. Il y a une troisième raison pour aller se disperser, c'est que on peut penser que même si c'est très exigeant et très compliqué, parce que ça demande d'acquérir tout un tas de cultures, ce qui n'est pas forcément évident dans les cursus universitaires ou autres, si vous voulez, je suis convaincu que demain, les grandes découvertes se feront, pas très originales, mais je crois que c'est vrai, se feront à l'interface de plusieurs disciplines. On parle de l'interface physique-biologie, on parle de l'interface chimie-biologie, mais même à l'intérieur d'une discipline, hein, parce que les choses sont très différentes entre le moléculaire, le solide, etc., l'enzyme. Et malgré tout, c'est à travers ces interfaces-là que les grandes découvertes se feront et se font. J'aime bien ce. Enfin, si vous avez un peu de temps, ce n'est pas une lecture très facile, mais lisez cet ouvrage de Michel Serre, qui a maintenant 10 ou 15 ans, qui s'appelle Le tiers instruit. Michel Serre, dans ce livre, développe ses idées sur l'éducation, sur la formation. Et en gros, il développe l'idée qu'il faut aller là où on n'est pas confortable. Notamment, il raconte qu'il a eu une grande chance, il était gaucher et son instituteur l'a forcé à travailler avec la main droite, ce qui aujourd'hui est politiquement incorrect. Il faut faire tout ce que les enfants ont décidé de faire. Et pour lui, c'était formidable parce que ça l'a amené vers un autre monde. Et puis, il a un autre exemple, c'est celui d'une rivière. Il y a une berge et puis il y en a une autre. La première berge, c'est celle sur laquelle on est, sur laquelle on est très confortable, on se sent bien. Et une première chose à faire, c'est d'aller sur l'autre berge, c'est-à-dire un second monde, pour l'apprendre. Mais en fait, c'est même pas le second monde qui est intéressant. Et c'est ce qu'il dit ici, le corps qui traverse apprend certes un second monde, celui vers lequel il se dirige, la seconde berge, mais où on parle une autre langue, enfin, un monde différent. Mais il s'initie surtout à un troisième, par où il transite. Et effectivement, la situation la plus inconfortable, c'est au milieu de cette rivière. Il ne sait pas s'il faut revenir en arrière sur la berge qu'il connaît bien ou aller vers l'autre, et c'est là qu'on apprend le plus de choses. Donc, voilà, tout ça, c'était pour illustrer cette idée qu'il faut savoir prendre des risques en matière de pluridisciplinarité. C'est ce que j'ai essayé de faire souvent, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire ici, au Collège de France. Alors, donc, je vais parler de ce monde nouveau, de cette berge nouvelle, mais je vais le faire de façon un peu particulière, c'est à travers la question de savoir si... donc, je vais parler de solide, bien sûr, mais pas comme en parlerait un spécialiste de catalyse hétérogène, de chimie du solide. Je n'ai pas cette prétention-là, mais essayer de montrer en quoi on peut avoir une vision d'une certaine chimie du solide à travers une synergie avec les molécules. Alors, pour commencer, dans le titre du cours, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a petites molécules, activation et catalyse. Alors, j'ai décidé quand même de ne pas passer tout de suite sur les choses dures, on y viendra, mais de prendre un peu le temps d'expliquer un certain nombre de choses. Et d'abord, de quoi on parle quand on parle de petites molécules? Eh bien, on parle de toutes ces molécules, d'ailleurs, quand je dis toutes, c'est un nombre très limité, qui sont présentes à la surface de la Terre, qui sont très stables, à la fois sur le plan thermodynamique et cinétique, et qui sont présentes à des quantités colossales sur la planète. C'est évidemment la molécule d'eau, voilà quelques exemples, hein, la molécule d'oxygène que nous respirons, l'azote, c'est l'air. L'hydrogène, il n'y en a pas des masses, mais C'est aussi une grande question dans le domaine de l'énergie, le CO2, le méthane, etc., etc. Alors, ces molécules-là, pourquoi elles sont intéressantes ? Oui, d'abord, si elles sont stables, par définition, il est très difficile d'en faire quelque chose chimiquement, de les transformer. Donc, c'est vraiment la question, comment on peut les activer de façon à les transformer. Alors, pourquoi les transformer ? Parce que, évidemment, elles sont très abondantes et qu'elles constituent, elles peuvent fournir pratiquement, on pourrait en citer quelques autres, mais pratiquement la très grande majorité des atomes dont, un, je vais en dire un mot, le vivant a besoin, et deux, notre société a besoin, sur le plan industriel. Alors, une chose très très importante, c'est que ces molécules-là ont été présentes à l'origine de la vie, donc très tôt. Si vous avez ici une histoire de la Terre, en gros, dégazage de la Terre, vous voyez, atmosphère primitive, on avait du CO2, de l'azote, de l'eau, etc. L'oxygène, c'est un produit tardif de l'évolution, vous le savez, c'est à peu près 2 milliards d'années, avec l'apparition des organismes photosynthétiques qui transforment l'eau en oxygène. Et ensuite, ça a mis du temps, parce qu'il y avait des quantités massives de fer ferreux qui ont tamponné cette arrivée d'oxygène. Et donc, j'en dirai un petit mot avec l'oxydation du fer en fer ferrique, qui a précipité, qui a disparu, des solutions. Et puis, évidemment, dans ces dernières années, on parle en effet beaucoup de l'accroissement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, à laquelle on attribue le réchauffement de la planète. Et à l'origine de la vie, les premiers organismes avaient uniquement ces molécules-là à transformer. Et donc, la question de l'activation des petites molécules est absolument centrale à la compréhension des origines de la vie. Et à partir du moment où le vivant, la nature, a réussi à trouver des solutions à l'activation de ces petites molécules, à leur transformation, à leur incorporation dans toutes les molécules de plus en plus élaborées du vivant, évidemment, ces solutions ont en grande partie, pas toutes, mais été conservées, puis améliorées avec l'évolution. Donc, c'est quelque chose de très, très important de ce point de vue-là. Et évidemment, aujourd'hui, si on arrive à très efficacement à transformer ces molécules, eh bien, on a à notre disposition une source massive d'atomes, d'oxygène, d'azote, de carbone, d'hydrogène, pour les applications et les utilisations de notre société. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de petites molécules. Maintenant, en quoi c'est particulièrement important dans le cas des questions de l'énergie ? Alors, comme vous le savez, on est dans un contexte où on se pose la question de l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, en particulier, l'énergie solaire, qui est une des choses qui nous intéresse, et vous avez vu dans le titre du colloque, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est comment utiliser l'énergie solaire. Eh bien, évidemment, il y a un gros problème qu'on oublie quand même souvent, puisque aujourd'hui, que ce soit les politiques, les médias, on continue à nous dire qu'il n'y a qu'à utiliser l'énergie solaire et remplacer les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, et tout sera réglé. Bon, en réalité, il y a tout un tas de problèmes, la dilution de ces énergies, mais aussi l'intermittence, comme vous le savez, on n'a pas tout le temps du soleil. Et donc, il y a une vraie question qui est celle du stockage de l'énergie. Et donc, je vais parler de solides et de catalyses hétérogènes dans ce contexte-là. J'aurais pu prendre tout un tas d'autres applications de la catalyse hétérogène, bien sûr, y compris dans l'industrie, mais je vais me limiter à ce domaine-là qui est celui que je connais le mieux. Alors, donc, le stockage de l'énergie, eh bien, il n'y a pas 36 façons de stocker l'énergie. On les connaît. Après, il faut les rendre efficaces. Mais si vous voulez, vous avez le stockage électrochimique, les batteries. Bon, ça, je n'en parlerai pas. Il y a des gens ici qui en parlent. Hein, très bien. Comme Jean-Marie Tarascon dans ses cours. Vous avez évidemment l'hydroélectricité, les barrages. Je n'en parlerai pas non plus. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le stockage chimique. Et c'est de ça dont je parle. Le stockage chimique, soit le stockage naturel, c'est la photosynthèse et la production de biomasse, soit le stockage chimique non naturel, c'est tout ce qu'on peut faire pour décomposer l'eau, réduire le CO2, etc., donc produire de l'hydrogène, des carburants, etc. Et vous voyez que, en gros, tout est résumé ici, c'est-à-dire que, et c'est là que vous comprenez tout de suite pourquoi il y a un lien entre énergie, stockage d'énergie et activation de petites molécules. Parce que, qu'est-ce que c'est que le stockage chimique ? Le stockage chimique, c'est un processus de transformation d'énergie solaire en énergie chimique. Qu'est-ce que c'est que l'énergie chimique ? C'est l'énergie qu'il y a dans les liaisons qui se créent à travers le processus de transformation énergisé par le soleil. Donc cette énergie solaire est stockée dans les énergies de liaison. Et ces énergies de liaison, eh bien, c'est l'énergie de la liaison hydrogène-hydrogène, par exemple, qui vient de la décomposition de l'eau. Donc là, vous voyez, vous avez bien une problématique d'utiliser l'eau, de l'activer et de pouvoir la transformer en hydrogène et en oxygène. C'est transformer le CO2. Donc ici, c'est un diagramme énergétique. Hein, voilà. Ces molécules sont en bas parce qu'elles sont très stables. Celles-là, elles sont remplies d'énergie. Et donc, c'est là aussi activer le CO2 pour le rendre capable de réagir avec de l'eau activée elle-même pour créer des hydrocarbures, des sucres, des carbohydrates, et puis toutes les molécules du vivant, la biomasse. De la même façon, vous voyez ici ce stockage d'énergie à travers cette transformation-là qui monte dans le domaine d'énergie, et cette énergie est fournie par le soleil. Évidemment, ce stockage-là n'a de sens que si vous pouvez utiliser cette énergie chimique en retour. C'est-à-dire que vous pouvez fermer le cycle, hein, parce que si vous stockez de l'énergie que vous ne pouvez plus l'utiliser, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc là aussi, vous voyez bien que, par exemple, ici, pour utiliser l'énergie stockée dans l'hydrogène, il faut que je le brûle avec de l'oxygène, il faut que je le fasse réagir avec l'oxygène. Ça ne se fait pas spontanément. Donc là aussi, il y a une question d'activation de ces molécules. Donc on est vraiment au cœur de ce problème quand on parle de stockage d'énergie, activation de petites molécules. Et évidemment, au milieu, il y a ce mot très important, catalyse, parce que tous ces processus-là sont d'une très grande complexité et sont tellement complexes que s'ils se produisent parfois spontanément, c'est ce que la thermodynamique nous dit, en réalité, c'est tellement lent que ça n'a aucune application potentielle, donc il faut accélérer ces réactions, et donc il faut des catalyseurs. Et donc, voilà, on peut imaginer un monde assez complexe demain une fois qu'on se sera débarrassé un petit peu des centrales thermiques, on pourra utiliser de la biomasse pour faire des carburants, des produits chimiques, etc. Mais on pourra aussi... Alors, biomasse, pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a de l'énergie là-dedans. C'est de l'énergie solaire, mais qui est maintenant sous forme de biomasse. Et on peut utiliser aussi toutes les énergies potentiellement électriques qui viennent du solaire, de l'éolien, l'hydroélectricité, etc. Et toute cette énergie-là peut être utilisée pour transformer cette molécule d'azote en ammoniac, CO2 en toutes sortes de produits carbonés, l'eau en hydrogène, etc. Et ensuite, par différentes transformations, ces molécules, à nouveau, nous alimentent en molécules, matériaux, produits chimiques et carburants pour le transport. Donc voilà pourquoi toutes ces choses-là sont liées et voilà pourquoi je vais constamment rapporter cette question de l'activation des petites molécules à ces domaines d'énergie. Bon, c'est un choix, hein, à nouveau, je répète, je prends ces domaines-là comme, comme illustration des concepts que je vais discuter. Là, on a typiquement, si vous voulez, l'illustration, voilà, les dispositifs dont on parle. Dans un électrolyseur, à l'anode, à la cathode, on réduit l'eau en hydrogène, ou on réduit du CO2 en toutes sortes de molécules, ici j'ai donné quelques exemples, monoxyde de carbone, méthane, enfin, etc. Et à l'anode, on a la fourniture des électrons par la décomposition de l'eau en oxygène. Donc, vous voyez, typiquement, petites molécules, tout ça c'est des petites molécules, il faut les activer, il faut des catalyseurs, et on est typiquement dans la production d'hydrogène ou de produits carbonés venant du CO2. Et les équations sont ici. À l'inverse, si vous voulez utiliser de l'hydrogène, par exemple dans une pile à combustible, vous voyez, à nouveau, cette réaction hydrogène plus oxygène donne de l'eau. À l'anode arrive de l'hydrogène qui s'oxyde et les électrons servent à réduire l'oxygène en eau. Donc, à nouveau, petites molécules, piles, batteries, électrolyseurs, tout ça est lié. Alors, il n'y a pas que dans le domaine... Enfin, il n'y a pas que ces aspects-là, mais même si je vais, moi, rester surtout hein, sur ces aspects d'électrolyse, de piles, etc., mais... Il y a aussi un certain nombre de procédés industriels hein, qui aussi se traitent la question de l'activation des petites molécules. L'hydrogénation du CO2, ce n'est pas encore très développé, mais il y a des usines de production de méthanol ou de méthane à travers cette hydrogénation de CO2. Évidemment, il y a cette réaction de Fischer-Tropsch qui est ancienne, mais qui revient régulièrement sur le tapis. Qui pourrait être dans l'avenir un peu plus développé encore, qui est cette hydrogénation de CO pour donner des carburants, des hydrocarbures. Vous avez évidemment cette réaction très importante qui est celle de l'hydrogénation de l'azote pour faire de la synthèse de l'ammoniac, dont je ne parlerai pas du tout cette année, sans doute l'année prochaine. Vous avez éventuellement cette question de la valorisation du méthane à travers sa transformation assez difficile en méthanol. Bon, voilà, donc il y a aussi, au-delà des problèmes électriques que j'ai évoqués et que j'évoquerai essentiellement, tout un tas de réactions dans lesquelles il y a une vraie question de l'activation de ces petites molécules. Alors, activer, ici, vous voyez, tout ça, ce sont des réactions redox. Hein, je reviendrai, mais il faut savoir qu'il y a aussi des réactions non redox hein, qu'on peut considérer. Produire des OH- de l'eau à pH basique, ce que font certains enzymes, c'est un enjeu, c'est difficile. On peut faire des réactions, si vous voulez, d'hydrolyse, enfin d'utilisation de l'eau qui ne sont pas redox, et là aussi il faut activer la molécule d'eau. Voilà, alors, maintenant, quelques mots quand même pour introduire cette question de catalyse, certains la connaissent très bien ici, mais néanmoins pour bien clarifier de quoi on parle. Voilà une réaction qui est ici facilement décrite par ce diagramme, énergie en ordonnée et chemin de réaction en abscisse, où vous avez le réactif et vous avez le produit, X et Y. Et vous avez une première information, c'est le niveau d'énergie des deux sont différents, et donc vous avez une contrainte énergétique qui est ici expliquée par delta H. Donc, dans ce cas-là, par exemple, il faut apporter de l'énergie pour aller de X à Y. Mais l'autre information, c'est cette énergie d'activation, EA, qui est l'information cinétique de la réaction. Pour passer de X à Y, eh bien, il faut aller plus haut en énergie, il faut passer une barrière énergétique. Et plus cette barrière est grande, et plus la cinétique est lente. Et donc, une des façons de contrer cette limitation cinétique, c'est évidemment ce qu'on appelle un catalyseur. Donc c'est une molécule, un solide, un composé voyez qu'il y a comme seul effet, ça ne touche pas au delta H, mais qu'il y a comme seul effet de diminuer l'énergie d'activation. Et en faisant cela, d'accélérer, y compris massivement, la cinétique de la réaction, donc l'efficacité de la réaction. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que un catalyseur peut aussi jouer, et ça, c'est très, très important dans certains cas, sur la sélectivité, puisque un composé X pourrait se transformer en Y et en Z à travers deux réactions différentes, et évidemment, comme elles sont différentes, vous avez deux énergies d'activation différentes, E à Y, E à Z, et un catalyseur peut jouer de façon différentielle sur l'une et l'autre, et donc changer assez drastiquement la sélectivité de la réaction. Donc le catalyseur est une chose extrêmement importante dans n'importe quelle réaction chimique. Je crois qu'il y a à peu près 80% des réactions industrielles qui sont catalytiques. Vous voyez ici, ça joue à la fois sur l'activité, la vitesse, et sur la sélectivité. Alors, vous avez un certain nombre de réactions industrielles. La moitié des carburants et de l'éthylène, et enfin une très grosse quantité de certains hydrocarbures qui sont à notre disposition sur la planète, viennent d'une réaction, par exemple, très connue, craquage catalytique, catalysé par des zéolithes, vous voyez ce genre de transformation qui conduit à partir d'hydrocarbures lourds à des molécules d'hydrocarbures plus petites et d'usage plus important. La synthèse de l'ammoniac, j'en ai parlé, la synthèse de l'acide sulfurique. Bon, chaque fois, vous voyez, il faut quelque chose en plus, c'est un catalyseur. Alors, c'est une diapositive un peu lourde, mais je crois que ça serait bien d'y passer un peu de temps pour comprendre la base. Et en gros, j'ai essayé ici de vraiment simplifier, mais en gros, cette activation de petites molécules, c'est une affaire de métaux. C'est une affaire d'ions métalliques, évidemment d'électrons, puisque ici je vais parler d'oxydation et de réduction, et puis aussi, très important, peut-être parfois pas pris à sa juste valeur, nécessité de protons. En gros, d'ailleurs la nature n'a pas fait autrement. Tous les organismes vivants, toutes les enzymes qui font de l'activation de petites molécules, chez les plantes, chez les hommes, chez les bactéries, ont choisi des ions métalliques pour faire ces transformations. Et évidemment, c'est absolument central, parce que, si vous voulez, la première chose à faire quand vous voulez activer une petite molécule, c'est de modifier, d'une certaine façon, ses propriétés électroniques. Et la seule façon sérieuse de faire ça, c'est de créer la possibilité d'une interaction avec un ion métallique. Cette simple interaction change les propriétés électroniques de sorte que vous avez un début d'activation qui peut être ensuite exploité par des transferts d'électrons et des transferts de protons. Donc, avoir bien en tête que on est dans la chimie donc inorganique, bio-inorganique, les métaux sont absolument essentiels et ils le sont depuis 3 ou 4 milliards d'années. Protons aussi essentiels parce que vous ne pouvez pas enlever des charges ou rajouter des charges à l'infini, il faut compenser ça par une contre-charge. Et c'est en gros pour ça que si vous réduisez, vous rajoutez des électrons, il faut rajouter des protons. Si vous oxydez, vous enlevez des électrons, il faut enlever des protons aussi. C'est la façon la plus simple de neutraliser le système. Et quand on étudie des systèmes enzymatiques, redox en particulier, c'est pas toujours fait de façon très rigoureuse, mais c'est facile d'imaginer d'envoyer des électrons ou de les enlever. C'est moins facile de voir les chemins de protons, mais les enzymes vivent des mouvements de protons massifs qui sont associés au transfert électronique. Et c'est des choses qui sont assez difficiles à comprendre, mais qui sont essentielles à l'activité de ces systèmes. Donc, simplement, c'est une information ici que, voilà, vous pouvez, qui est complexe, mais que vous pouvez garder, parce que ça servira pour l'essentiel du reste. Si vous faites de l'oxydation de l'eau, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait à un moment donné fixation sur un métal. Et ensuite, cet intermédiaire peut être oxydé à deux électrons. Donc vous passez, et vous voyez qu'on enlève deux protons, et vous passez par ce qu'on appelle un métal oxo. Et ce métal oxo, soit il est assez électrophile et l'eau assez nucléophile pour que cette molécule d'eau puisse attaquer cette molécule d'oxygène, et c'est là que vous créez la liaison oxygène-oxygène. Et ensuite, il faut oxyder à deux électrons à nouveau pour créer de l'oxygène. Ou bien, vous avez deux complexes métalloxo qui réagissent entre eux pour créer la liaison oxygène-oxygène. Et à ce moment-là, vous avez, moyennant une nouvelle oxydation, le relargage de l'oxygène. Si vous faites la réaction inverse, eh bien, en gros, ça prend le chemin inverse, mais je l'ai écrit ici. L'oxygène est très stable, mais si vous le fixez à un métal, à ce moment-là, là aussi, il devient plus réactif. Vous pouvez plus facilement le réduire. Ici, c'est pareil, vous pouvez avoir des systèmes binucléaires. X peut être un métal ou peut être de l'hydrogène, des entités peroxo, qui ensuite se décomposent. Vous cassez la liaison oxygène-oxygène et vous arrivez à ces entités oxo. Alors, ces entités oxo, vous pouvez en faire différentes choses. Soit vous avez un substrat et cet oxygène est transféré, c'est ce qu'on voit dans l'oxydation du méthane en méthanol dans la méthane monooxygénase, ou bien vous avez une réduction à deux électrons pour donner de l'eau, et ainsi de suite. Ici, vous voulez réduire des protons, eh bien, il faut fixer une réduction à deux électrons un atome d'hydrogène. Ici, c'est sous forme d'hydrure, donc c'est l'équivalent d'un H-. Et une fois qu'il est là, fixé, contrôlé par le métal, vous avez une protonation qui donne de l'hydrogène. À l'inverse, si vous faites de l'oxydation de l'hydrogène, il faut que vous ayez un système qui soit capable de fixer la molécule d'hydrogène de façon transitoire. Et à un moment donné, il faut casser les liaisons hydrogène, donc il faut faire partir un proton. Tout ça, ces protons ne se promènent pas, hein, il faut des bases, il faut des entités basiques. Mais ici, vous avez une base qui arrache ce proton, et vous finissez par un hydrure qui ensuite peut relarguer deux électrons et vous récupérez le deuxième proton. Enfin, dernier exemple, la réduction du CO2. Mais voyez, c'est toujours la même logique. Il faut activer quelque chose. Ici, dans un premier chemin, le CO2 se fixe sur le métal. Ça active. C'est plus réactif. À ce moment-là, l'arrivée de protons facilite la cassure d'une des liaisons carbone-oxygène et vous avez un complexe carbonyle intermédiaire. S'il n'est pas stable, vous produisez du CO. S'il est stable, il peut subir d'autres transformations. Comme vous avez des protons, dans des procédés comme la réduction du CO2, vous avez aussi la possibilité de fixer des protons pour donner un hydrure. Et cette hydrure peut réagir avec CO2, le réduire pour donner de l'acide formique. Donc vous avez plusieurs chemins possibles. Mais vous voyez, c'est toujours la même logique. Un ion métallique absolument essentiel et un proton et un substrat qui se fixe au métal et ensuite joue les protons et les électrons. Alors, très rapidement, mais là aussi, on sait tout ça, mais c'est juste pour fixer les idées. Donc, quand je parle de catalyse homogène, je parle de complexes moléculaires qui sont solubles dans le milieu dans lequel on les étudie. Alors, ils ont une structure parfaitement définie. Par exemple, très, très bien caractérisée une fois qu'ils sont cristallisés par cristallographie des rayons X. C'est un système simple, limité à 1 ou quelques atomes métalliques, un, on parle de complexes mononucléaires, ou si c'est plusieurs atomes, c'est polynucléaire, ce sont des clusters, mais ça ne dépasse jamais quelques atomes métalliques, et avec un ligand organique, ici vous avez un exemple, qui est simple aussi, qui est parfaitement connu, bien caractérisé, etc. Et puis vous avez un nombre limité d'états redox accessibles. Vous savez en général assez bien où est l'électron, sur le métal, sur le ligand. Ceci s'étudie bien par électrochimie. Ici, vous voyez, chaque signal ici est l'indication d'un changement redox de la molécule. Il est parfaitement bien défini, il se passe à un potentiel redox parfaitement bien connu. Et donc, on maîtrise tout ça très bien. Donc ça, ce sont des avantages. Alors, ils sont intéressants parce qu'ils sont actifs à basse température. Ils sont en général assez sélectifs. Donc, comme je l'ai dit, ils sont facilement caractérisables. Mais peut-être ce qui est le plus intéressant avec ces catalyseurs homogènes, c'est qu'on peut, par la simple synthèse et par de petites modifications, des petites fonctionnalisations du ligand, de la partie organique, on peut drastiquement changer les propriétés électroniques et les propriétés redox. Ici, vous voyez un exemple du laboratoire récent. Je reviens sur le même... ça, c'est un catalyseur qui a été un peu étudié au laboratoire, homogène, donc, pour la réduction du CO2. Il est là. Vous voyez ici son voltammogramme cyclique, donc... À nouveau, chaque signal ici est l'indication d'un changement redox à un potentiel qui est indiqué ici en abscisse. Eh bien, vous voyez que par des petites modifications ici, en rajoutant un groupement électrodonneur, ici en rajoutant des ligands plutôt électro-attracteurs, vous changez, vous voyez ce signal-là, il apparaît ici ou là, et donc vous avez pratiquement... ce signal vient ici ou il vient là, voilà. Et donc, vous avez pratiquement une différence de 1 volt, ce qui est colossal, en rajoutant des toutes petites choses sur le ligand. Donc ça, c'est un des gros avantages de la catalyse homogène et c'est exploité à l'infini par les chimistes de cette catalyse. Alors, les inconvénients, il y en a un certain nombre. Ils sont en général assez instables, c'est-à-dire supportent mal des températures un peu élevées ou des conditions un peu plus extrêmes. Le gros inconvénient dans les applications industrielles, c'est que, parce qu'ils sont difficilement séparables des produits, puisque les produits sont dans le milieu réactionnel avec les catalyseurs, ils sont donc difficilement recyclables. Et donc, il y a en ce moment beaucoup de recherches sur des catalyseurs à base de métaux non nobles pour faire des réactions en catalyse homogène, parce que on peut bien sûr perdre ce catalyseur. Il faut qu'il coûte, il faut pas qu'il coûte trop cher. Et il y a beaucoup de procédés industriels en flux, et évidemment, avec un catalyseur homogène, c'est pas très adapté. Donc, il y a des avantages, des inconvénients, mais si vous voulez. Je crois que la chose la plus intéressante avec la catalyse homogène, c'est ça, c'est la modulabilité par la fonctionnalisation des ligands. Et ceci permet surtout, au-delà d'une optimisation rationnelle très intéressante, aussi de comprendre certains aspects fondamentaux qui lient les propriétés électroniques du catalyseur avec l'activation de la molécule que l'on considère. Là aussi, un exemple, toujours avec ce complexe-là, ça aussi c'est un résultat, vous voyez, récent du laboratoire, c'est de la réduction du CO2. Ce sont des complexes de cobalt. Vous voyez qu'en modifiant les ligands ici avec différents substituants, vous changez les propriétés redox. Ici, ce n'est pas un changement de 1 volt, mais vous voyez, si je passe de là à là, c'est peut-être 200 millivolts de différence, c'est beaucoup moins, mais néanmoins, Donc, ces changements s'expliquent très facilement par les propriétés électroniques des substituants, hein, qui se traduisent par cette courbe ici, mais je ne rentre pas dans le détail. Mais cette simple petite modification de quelques centaines de millivolts conduit à des changements drastiques de sélectivité du catalyseur. Vous voyez qu'avec tel ligand, vous avez une très bonne sélectivité pour la réduction du CO2 en CO, et il y a très peu d'hydrogène qui se forme. À nouveau, vous devez comprendre que lorsque vous faites, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous faites de la réduction du CO2, vous avez besoin de protons, et comme il y a des protons, vous pouvez faire de l'hydrogène. Donc il y a cette question de la compétition. Donc, et vous voyez que vous pouvez changer très significativement les proportions de CO et d'hydrogène par des modifications très minimes du ligand. Donc c'est quand même très très intéressant. Voilà. Alors, j'ai dit ma conviction de la problématique de la catalyse homogène dans le domaine de l'énergie, mais là encore, je l'ai quand même dit, ce n'était pas pour dire qu'il n'y a pas de place pour la catalyse homogène dans l'avenir. Il y a une très grande place pour la catalyse homogène, et d'ailleurs, il y a tout un tas de réactions industrielles qui sont du ressort de la catalyse homogène. La synthèse d'alcool et d'acide par la réaction d'hydroformulation des alcènes, ce sont des réactions qui sont catalysées par des catalyseurs homogènes relativement simples, hein, vous voyez, des complexes carbonyles du cobalt ou du rhodium par ces différentes entreprises. Donc vous avez toutes sortes de réactions très intéressantes. Donc là encore, j'insiste, la catalyse homogène est une discipline très importante et très utile sur le plan industriel. Catalyse acide, donc ça c'est non redox, hein, vous voyez, vous avez ici des catalyseurs métalliques qui ici ne jouent pas dans les transferts d'électrons. Déshydrogénation, donc hydroformulation, des réactions de polymérisation, voilà, de la catalyse asymétrique. Donc vous avez tout ça dans l'industrie. Voilà. Alors, il y a une catalyse homogène qui est un peu particulière, qui a mon affection depuis longtemps, c'est la catalyse enzymatique, parce qu'une enzyme, c'est une molécule. Donc, quand on parle de catalyse enzymatique, en général, on classe la catalyse enzymatique en dehors, souvent, de la catalyse homogène, mais c'est une catalyse homogène. Ce sont des catalyseurs homogènes. Ces catalyseurs, ils ont une propriété, ces enzymes ont une propriété qui est très, très importante, c'est que... ces enzymes n'utilisent que des métaux non nobles. Ça, c'est une notion extrêmement importante. À ma connaissance, pour le moment, personne n'a encore découvert d'enzymes qui utilisent du platine, du rhodium, du ruthénium, de l'iridium, etc. Bon, peut-être qu'on découvrira ça un jour, mais pour le moment, ça n'existe pas. Il y a des bonnes raisons, je vous les indiquerai. Là aussi, la plupart des sites métalliques sont des sites mononucléaires avec un atome de fer, un atome de métallique, pardon. Ici, c'est un système, c'est un cytochrome avec une porphyrine de fer. Il y a un atome de fer, voilà, et c'est ça qui fait la chimie. Bon, ça peut aller jusqu'à des clusters un peu plus compliqués, mais là encore, c'est jamais plus que quelques atomes. Ça peut être des atomes de différentes sortes. Vous voyez, nickel, fer ici, donc plusieurs atomes de fer, nickel, voilà. Voilà le type de, peut-être, cluster extrême qu'on peut voir en biologie. Donc c'est de la catalyse homogène, parce que tout ça est évidemment soluble dans le cytosol. Bon, il y a bien, évidemment, tout un tas d'enzymes qui sont dans des membranes et qui n'ont pas, évidemment, les mêmes propriétés de solubilité, mais ça reste quand même des systèmes homogènes. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution, 4 milliards d'années, ont été utilisées pour optimiser ces systèmes. Donc, une efficacité catalytique exceptionnelle, avec des enzymes qui pratiquement travaillent sans énergie d'activation, des systèmes très sélectifs et qui sont très spécifiques du substrat. Alors évidemment, c'est ça, c'est ces considérations-là qui ont considéré tout un tas de chimistes de se plonger sur la démarche bio-inspirée. La nature a sélectionné, a trouvé des solutions qui sont exceptionnelles. Donc, si je peux comprendre comment ça marche et si je peux faire des systèmes plus simples qui exploitent les principes fondamentaux du fonctionnement et de l'organisation de ces systèmes enzymatiques, à ce moment-là, je dois obtenir des systèmes qui fonctionnent bien. Et donc, c'est tout le domaine de la catalyse bio-inspirée. Et là, évidemment, je dirais que 99% des travaux dans ce domaine-là, de la catalyse bio-inspirée, c'est de la catalyse homogène. Parce que les enzymes sont homogènes, parce que les sites actifs sont des petites molécules, eh bien, quand on fait de la catalyse bio-inspirée, on fait de la catalyse homogène, pour l'essentiel. Et donc, une des choses qu'on essaye de développer depuis peu, c'est cette idée de catalyse bio-inspirée hétérogène. Est-ce qu'on peut... La question, c'est est-ce qu'on peut exploiter les informations qu'on a, à nouveau, les principes de fonctionnement, les principes d'organisation d'un site actif d'une enzyme, est-ce qu'on peut utiliser ces informations-là pour construire un système qui ne soit pas homogène, qui soit solide, et faire de la catalyse hétérogène? Alors ça, c'est un, de mon point de vue, c'est un quelque chose qui émerge, c'est un nouveau concept, et je ferai un cours spécifiquement sur cette question-là. Vous montrer comment on peut faire. D'ailleurs, quand on pense à ça, on se dit... Est-ce que vraiment il n'y a pas de catalyseur hétérogène biologique? Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de catalyseur hétérogène biologique. Et pourtant, il y a du solide dans le vivant. Je me suis souvent posé cette question, et il y a peut-être là des choses intéressantes. À la surface de certains matériaux solides vivants, peut-être qu'il y a des réactions, voilà, qui ont une certaine sélectivité et qui ont un certain intérêt. Je ne crois pas, à ma connaissance, que ces idées-là aient été exploitées, étudiées. Bon. Il y a peut-être des catalyseurs hétérogènes biologiques. Ou alors, juste parce que au cours de ces différentes heures là, où je vais parler de catalyse solide, mais en lien avec la problématique enzymatique et moléculaire, juste pour information, vous montrer que, en effet, la nature, aujourd'hui, le monde vivant aujourd'hui, possède tout un tas de catalyseurs. À nouveau, un seul métal, un cluster avec quelques ions métalliques, possède toute une machinerie enzymatique pour activer les petites molécules et les transformer. Et, comme je vais le dire un peu plus tard, ce sont des machineries qui probablement viennent de très très loin, dans l'histoire, qui ont été sélectionnés très tôt aux origines de la vie. Et donc, il y a des systèmes, vous voyez, qui catalysent la réduction des protons de l'eau en hydrogène ou l'oxydation de l'hydrogène en eau. Hein, ce sont des systèmes dont j'ai déjà parlé, ce sont les hydrogénases. Donc chaque fois, vous voyez, vous avez une image qui est la protéine, parce que c'est une chaîne polypeptidique, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a ici, au cœur du site actif. Quand on zoome là-dessus, voilà, on voit ici, vous voyez, c'est un binucléaire de nickel et de fer. Ici, c'est deux atomes de fer. Je ne rentre pas dans le détail de ces trucs. Ici, il y a un cluster fer-soufre. Vous voyez, en marron, ce sont des atomes de fer. Donc voilà, vous avez 2, 4, 6 atomes de fer dans ce cas-là. Vous voyez, on peut continuer. Vous avez des systèmes qui sont capables d'activer la molécule d'oxygène pour la transformer en eau. Et c'est une réaction absolument essentielle à la bioénergétique. Hein. Et donc là, par exemple, vous voyez ici, vous avez deux systèmes. La nature n'a pas trouvé toujours qu'une seule solution, elle a exploité plusieurs solutions. Ici, par exemple, dans le cas de l'oxygène, je pense être assez exhaustif en disant que... voilà, la cytochrome oxydase est l'enzyme qui, en effet, réduit l'oxygène en eau. Et vous voyez ici, vous avez une porphyrine de fer, et puis vous avez un atome de cuivre ici. Donc ici, c'est un binucléaire. La lacase, alors la réaction inverse, l'oxydation de l'eau en oxygène, vous avez le photosystème, et ici c'est un cluster. Vous voyez en violet, vous avez les atomes de manganèse et vous avez un atome de calcium. Le reste, ce sont des atomes d'oxygène. La lacase peut faire aussi l'oxydation de l'eau, c'est un cluster d'atomes de cuivre. Voilà, toujours comme ça, des petits systèmes, mais qui ont cette capacité de faire des réactions extrêmement importantes pour le vivant. Dans le cas du CO2, vous avez aussi, dans le monde vivant, des systèmes qui réduisent le CO2 en acide formique ou qui font la réaction inverse. Ici, vous voyez, c'est un atome de molybdène ou de tungstène, tout seul, c'est un mononucléaire. Dans le cas de la réduction du CO2 en CO, c'est des systèmes plus complexes. Vous avez ici un binucléaire molybdène-cuivre, et ou bien ce complexe que j'ai déjà montré, nickel avec des atomes de fer, nickel-fer. Voilà. Et puis vous avez peut-être, vous voyez, quand vous arrivez à 6, 7, 8 atomes métalliques, vous avez atteint le sommet de la complexité. La nature ne fait pas plus compliqué que ça en termes de catalyseurs et de clusters. Et vous voyez ici, par exemple, cette réaction extrêmement importante dans le monde vivant, qui est la transformation de l'azote de l'air en ammoniac, catalysée par cette enzyme qui s'appelle la nitrogénase. Eh bien, vous voyez, vous avez un atome de molybdène et puis vous avez un certain nombre d'atomes de fer, 7 atomes de fer. Et puis, voilà une autre réaction dont je ne parlerai plus, qui est impliquée dans le métabolisme du soufre chez les organismes vivants. C'est beaucoup d'organismes vivants font l'acquisition du soufre à travers la réduction de sulfite ou de sulfate. Et voyez ici, c'est une porphyrine de fer qui est couplée à un cluster 4 fer 4 soufre à travers un pont cystéine. Donc vous voyez ici, c'est donc 5 atomes de fer qui font le boulot. Voilà. Et pour terminer, une autre réaction qui m'a beaucoup intéressé, qui est l'oxydation du méthane en méthanol. Il y a des organismes vivants. Alors ça, c'est une réaction qui intéresse énormément les industriels, et c'est pour ça qu'ils ont été très excités à un moment donné lorsqu'on a découvert des micro-organismes qui étaient capables de faire de l'oxydation du méthane en méthanol. Et ce sont les méthanotrophes. Qui poussent sur du méthane et qui ont la capacité grâce à la méthane monooxygénase. Et vous voyez, c'est un site binucléaire de fer. Ici, ce sont deux atomes de fer, ça, c'est deux atomes d'oxygène. Ça, c'est pour le méthane. Vous avez une autre enzyme qui est à base de cuivre. Et là, vous avez aussi un système binucléaire de cuivre qui fait le boulot. Donc la nature, à nouveau, peut sélectionner différents systèmes pour faire le même type de réaction, mais chaque fois, c'est limité à des sites actifs relativement simples d'une certaine façon. Et c'est pour ça que... Alors ici, j'ai oublié de mentionner ça, et chez les mammifères, vous avez des cytochromes P450, donc ce sont des porphyrines de fer qui font l'activation de l'oxygène. Et donc, c'est bien parce que au fond, ces systèmes vivants sont relativement simples, en fait, que la démarche de la chimie bio-inspirée est pertinente. Parce que, finalement, on peut penser que le chimiste est capable de produire des entités par synthèse qui ressemblent à ces choses pas si compliquées que ça. Voilà. Bon, juste des choses que j'ai déjà dites dans le passé, mais je les rappelle rapidement. Vous avez compris que la raison pour laquelle la nature a choisi des métaux non nobles, c'est essentiellement pour des raisons de... Enfin, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est une raison de disponibilité des métaux. Donc, c'est ce que j'appelle ici le principe d'abondance. Si vous regardez la quantité de métaux dans un tissu et la quantité dans l'eau de mer, en gros, vous voyez une très bonne corrélation. Donc la nature ne s'embête pas, elle prend ce qu'il y a de plus abondant. Alors, y a un problème avec le fer, par exemple. Voyez. Il faut aussi, quand vous faites ce genre de raisonnement, il faut que vous teniez compte aussi d'un certain nombre de propriétés physico-chimiques. Le fer, il n'est pas du tout dans cette ligne-là. Et en fait, vous pouvez le ramener ici, comme c'est écrit ici, vous pensez au fer. Alors ici, c'est fer dans la mer ancienne. Qu'est-ce que c'est que la mer ancienne ? En fait, c'est très simple. Aux origines de la vie et aux origines des micro-organismes vivants, l'atmosphère était inerte, pas d'oxygène, et donc c'était du fer 2, donc soluble. Tout le fer, qui est le second métal le plus abondant à la surface de la Terre, après l'aluminium, était massivement soluble. Donc les organismes vivants ont pu l'utiliser. Et puis, quand est arrivé l'oxygène, il a massivement précipité. Alors, les organismes vivants auraient pu dire « Ok, je fais autre chose qu'avec du fer, puisque si j'applique le principe d'abondance, il n'est plus du tout abondant. » Alors ça, c'est d'autres informations. Oui, c'est en gros, quand le fer s'oxyde, il précipite, c'est de la rouille. La nature aurait pu se dire « je prends autre chose », mais il s'avère que dans le cas de fer, le fer est tellement fantastique pour ce que la nature peut en faire que si, dans quelques cas, en particulier le fer a été remplacé par le cuivre, tout a été fait au cours de l'évolution pour garder le fer en dépit du fait qu'il n'était plus du tout abondant et plus du tout soluble. Et donc, il y a eu toute une transformation du monde vivant à travers la mise en place de systèmes antioxydants, des stratégies de solubilisation des oxydes de fer et de réduction du fer 3 en fer 2 pour rendre le fer soluble et accessible. Et bien sûr, il y a eu de nouveaux cofacteurs enzymatiques qui sont apparus, qui sont plus stables à l'air, et en particulier le cuivre, de sorte que, et uniquement sur des bases des potentiels de redox, vous pouvez très aisément comprendre pourquoi, au cours de l'évolution, l'ère du fer a été essentielle à l'origine. Quand je dis l'ère du fer, c'est l'élaboration de toutes les enzymes à fer qui étaient nécessaires à l'origine de la vie et ensuite au développement des organismes vivants. Et que quand l'oxygène est arrivé, il y a eu partiellement un remplacement du fer par le cuivre, de sorte qu'on parle d'ère du cuivre dans un second temps. D'ailleurs, vous constaterez que c'est l'inverse lorsqu'on parle de l'âge de bronze et l'âge du fer. L'âge du bronze, c'est avant l'âge du fer, aussi pour des réactions redox, parce que la métallurgie, à cause des potentiels redox, la métallurgie du cuivre est plus facile que celle du fer, puisque, en effet, c'est plus facile d'obtenir du cuivre 0 par réduction de quelque chose qui est à 0,3-0,2 volts que de descendre à moins 0,2, moins 0,4. Donc, il faut des technologies plus puissantes. Donc, sur des simples considérations redox, on comprend un peu comment se passent les choses. Et la raison pour laquelle... La nature a continué de façon obsessionnelle à utiliser le fer, c'est parce que il y a une raison fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux que le fer pour, avec un seul ion métallique, fer 3, fer 2, balayer pratiquement un volt de potentiel pour faire toutes les fonctions possibles du monde vivant. Et ça se voit bien sur des diagrammes de ce type-là. Ici, vous avez une échelle de potentiel. Ici, c'est deux valeurs de pH. Et vous voyez qu'en pointillé au-dessus, vous avez l'oxydation de l'eau. En dessous des pointillés, vous avez la réduction de l'eau en hydrogène. Donc, il ne faut que des systèmes redox métalliques qui soient dans ce domaine-là. L'étain ou le chrome, par exemple, ça n'existe pas dans le monde vivant. Simplement parce que, là, c'est pour des raisons fonctionnelles, c'est pas uniquement pour des raisons d'abondance, c'est parce que là, on a des systèmes qui sont beaucoup trop réducteurs et qui transforment le solvant du vivant, qui est l'eau, en hydrogène. De la même façon, il y a très très peu de systèmes à cobalt, parce que là, on atteint des états d'oxydation qui conduisent à l'oxydation de l'eau. Le manganèse est intéressant parce qu'il est à la limite, et effectivement, vous souvenez que c'est du manganèse qui est utilisé pour le photosystème 2, qui peut faire de l'oxydation de l'eau. Mais quand on regarde le fer, le couple fer 3, fer 2, vous voyez qu'il peut, c'est ce qu'on voit ici, parce que ici, c'est le même diagramme, mais dans lequel on a posé les points des potentiels redox de différents systèmes enzymatiques, des ferredoxines, du cytochrome P450, rubredoxine, différents cytochromes. Et cela nous montre bien que le fer est capable, avec un atome de fer et en faisant varier la chaîne polypeptidique autour et les ligands, on peut atteindre différents niveaux, enfin une très grande gamme de potentiels redox. Le cuivre, ici, c'est moins intéressant de ce point de vue-là. À nouveau, pour illustrer cette approche-là, pour montrer comment assez facilement, sur la base de données physico-chimiques très simples, des constantes d'équilibre, des potentiels redox, on peut comprendre la logique du vivant. Ici, par exemple, vous voyez, transport d'oxygène. Les organismes aérobies qui vivent à l'oxygène, il faut qu'ils aient des systèmes qui captent l'oxygène moléculaire. Eh bien, quand on regarde les systèmes vivants, on s'aperçoit qu'il y a trois... La nature a sélectionné trois protéines pour fixer l'oxygène. Vous avez l'hémérythrine, c'est un système binucléaire de fer. Vous avez l'hémoglobine et la myoglobine, que vous connaissez bien, qui est cette porphyrine de fer. Et puis vous avez l'hémocyanine, qui est un binucléaire de cuivre. Pourquoi la nature a choisi du fer et du cuivre? Et pourquoi des fois des binucléaires et des fois des mononucléaires? Alors, bon, évidemment, là vous pourriez dire c'est principe d'abondance. Certes, encore que par le principe d'abondance, on pourrait en conclure que il faut éviter le fer puisqu'il n'est plus abondant aujourd'hui. Mais par des raisonnements aussi simples que l'étude de ces équilibres-là, la fixation réversible de l'oxygène caractérisée par ce delta G, par un complexe mononucléaire, ou la fixation réversible de l'oxygène par un système binucléaire caractérisé par ce delta G. Eh bien, quand vous étudiez, vous estimez, vous faites les calculs de ces delta G pour différents systèmes, eh bien, avec la règle, évidemment que vous comprenez bien qu'il faut que ce delta G soit négatif, mais pas trop. Négatif parce qu'il faut que la réaction ait lieu, mais pas trop parce qu'il faut que le système puisse redonner de l'oxygène une fois qu'il l'a fixé, parce que s'il le fixe irréversiblement, ça n'a aucun intérêt. Eh bien, on s'aperçoit assez facilement qu'on trouve ces chiffres-là, donc entre moins 2 et moins 5, qui est la valeur optimale, avec des systèmes mononucléaires de fer, ou des mononucléaires de fer, pardon, ici, ou binucléaires de fer et de cuivre. Voilà, c'est le type de considération qui permet de comprendre et qui peut aider. Alors, sur la catalyse, sur la catalyse hétérogène, là aussi, une petite introduction. Alors, avec la vision de quelqu'un de neuf dans le domaine, mais qui vous dit ce qu'il en pense. Alors, un catalyseur solide, hétérogène, oui, en effet, il est solide, et donc il est insoluble dans le milieu dans lequel on va l'utiliser. C'est un réseau d'atomes métalliques. Donc ça peut être un seul atome, mais ça peut être aussi deux atomes. Ce sont des bimétalliques, ça peut être des polymétalliques, ça peut être des alliages, donc il peut y avoir des mélanges d'atomes. Évidemment, dans la mesure où les molécules substrat ne peuvent pas traverser pour l'essentiel, mais on verra qu'on peut construire des matériaux qui permettent cela, les réactions se font sur la surface de ces solides. Et quand on regarde la surface, eh bien, elle est, c'est pas une surface plane, elle est complexe. Donc, vous avez tout un tas de défauts. et ces défauts sont absolument essentiels à la réactivité. C'est sûrement là que va se jouer en partie le contrôle de la sélectivité du catalyseur. Voilà. Ici, c'est juste pour vous montrer que selon l'endroit où la réaction se passe, entre cette molécule, qui est, ici c'est du monoxyde de carbone, mais sur lequel on ajoute un atome d'hydrogène, vous voyez, selon la réaction où ça se passe, vous voyez que les énergies peuvent être différentes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai dit qu'il n'y avait pas de catalyse hétérogène biologique. Je ne connais pas de solide biologique qui catalyse une réaction spécifique. Mais néanmoins, il y a un lien très fort entre catalyse hétérogène et origine de la vie et vivant. Et c'est de ça dont je voudrais parler pour finir. Bon, les origines de la vie, la question des origines, c'est une question qui obsède les chimistes depuis très longtemps. Chaque fois que j'en parle, je ne peux m'empêcher de citer évidemment les expériences de Miller. Miller ici fait une expérience dans laquelle justement il met une certaine atmosphère qui est avec des petites molécules. Alors aujourd'hui on sait qu'il avait tort parce qu'il a mis une atmosphère qui était plutôt réductrice. Et tout indique qu'il n'y avait pas de méthane, mais c'était plutôt une atmosphère oxydante, il y avait beaucoup de CO2, enfin, etc. Bon, néanmoins, c'est une expérience magnifique. Et ici, l'activation, il l'a fait par décharge électrique, température, etc., et pas du tout par des ions métalliques. Donc, ça n'illustre pas ce que je veux dire, mais je voulais quand même mentionner ça. Alors, là où c'est plus en lien avec ce que je raconte, c'est que une des théories de l'origine de la vie, c'est que tout ça s'est passé en partie au niveau de ces fumeurs noirs qui sont ces sortes de cheminées au fond des océans où des composés soufrés de l'hydrogène et de l'eau à très haute température qui viennent évidemment du cœur de la Terre rencontrent l'eau des océans où se trouve tout un tas de sel vous avez donc une atmosphère qui est oxydante, vous n'avez pas d'oxygène et vous avez tout un tas de composés solides qui s'accumulent, des sulfures de fer, des sulfures mixtes de nickel et de fer, etc. Et que c'est justement à ce niveau-là, à travers une catalyse hétérogène et pas homogène, donc vous voyez que là, on est à un moment de l'évolution de la vie où la catalyse qui va devenir homogène après, la catalyse du vivant qui va devenir homogène, ne l'est pas encore. On n'a pas encore véritablement des organismes, mais on a l'élaboration des premières molécules qui vont servir au vivant. Et ça peut se faire, en effet, à travers des réactions d'hydrogénation du CO2 pour aboutir aux premières molécules carbonées qui vont être utiles. Mais là, ce qui est important, c'est que tout ça se passe à la surface de catalyseurs hétérogènes. Et il y a même cette idée que je trouve assez fascinante de Martin et Russell, qui sont deux chercheurs australiens qui ont développé cette idée-là, c'est que, vous voyez, lorsque ces eaux soufrées, très chaudes, interagissent avec du fer 2, vous faites des sulfures de fer ou de nickel qui précipitent, et ça fait des matériaux poreux comme ça, avec des membranes. Et Martin et Russell font l'hypothèse que ici, vous voyez, en fait, c'est une cellule. Vous avez, parce que la question de la compartimentation est évidemment essentielle au vivant, donc vous avez une forme de cellule, peut-être la première cellule vivante qui est inorganique, qui s'organise, qui peut accumuler des précurseurs organiques qui vont être à l'origine de la synthèse de molécules plus élaborées jusqu'à ARN, protéines, etc., que les catalyseurs sont sur la surface de la cellule, entre guillemets, et sont remplis de sulfures métalliques qui ont la capacité de faire tout un tas, de catalyser tout un tas de réactions. Et ici, c'est une montée vers de plus en plus d'évolution. Alors, c'est un peu simplifié, hein, mais au début, c'est très prébiotique, et puis on accumule les acides aminés, les sucres, les bases nucléiques, et petit à petit, on arrive à des molécules plus élaborées. Et on ne peut pas s'empêcher de citer le travail absolument merveilleux de Günther Wachterhäuser, qui était en fait au bureau des brevets européens et qui faisait des manips un peu comme ça dans le coin avec quelques collaborateurs. Il n'avait pas de laboratoire, mais il avait plein d'idées. Et dans les années, vous voyez, entre les années 90 et 2000, il a publié tout un tas de papiers dans Science et Nature où il a pu montrer, si vous voulez, que les sulfures de fer et mixtes nickel avaient un pouvoir réducteur et une capacité catalytique qui permettait de transformer le CO2, l'azote, et même plus que ça, de créer des liaisons carbone-carbone, voyez, entre du CO et un thiométhyle, ici, entre le thiométhyle et l'acide acétique. Et puis, plus récemment, vous voyez, au début des années 2000, il a pu montrer que, en utilisant à nouveau des complexes, des solides à base de fer et de nickel, il pouvait, dans certaines conditions, produire des acides aminés, produire du pyruvate et, y compris, coupler des acides aminés pour donner des peptides. Bon, ça, c'est absolument formidable, mais et en même temps, ça vous montre, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, à nouveau, la catalyse hétérogène a probablement joué un rôle majeur dans l'élaboration des premières molécules du vivant. Et assez de façon évidente, eh bien, vous voyez, quand on regarde les différents matériaux à base des sulfures de nickel ou de fer, on trouve des choses comme la makinawite, la greguite, la violarite, la pyrite. Et en fait, quand on regarde ça, on ne peut pas s'empêcher de penser au site actif de l'hydrogénase, de la CO déshydrogénase, de l'acétyl-CoA synthase, et de la ferredoxine, ces protéines qui sont aujourd'hui celles du vivant, et que, en toute probabilité, c'est l'hypothèse, de toute façon, dans le domaine de la réflexion sur les origines de la vie, on est autorisé à dire n'importe quoi, puisque de toute façon, on ne peut pas le vérifier, mais c'est assez frappant de constater que ces structures-là, qui ont sans doute été d'une très grande efficacité dans l'élaboration des premières molécules, ces structures-là ont été gardées d'une certaine façon, mais à travers des systèmes plus petits. Vous voyez, ici, la CO déshydrogénase a vraiment le site actif nickel-fer, hein, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, a quand même beaucoup de choses en commun avec la greguite. Voilà, alors, bon, la catalyse hétérogène, des avantages et des inconvénients, comme pour l'autre, des réactions multiélectroniques que ne peut pas faire la catalyse homogène. Ici, on verra des cas où le CO2 peut aller jusqu'à des réductions à 12 électrons. Évidemment, la chose très intéressante pour l'industrie, c'est que c'est un solide, donc dans les milieux réactionnels, les réactifs et les produits sont séparés du solide, on peut les séparer, et on peut donc recycler le catalyseur. Ils sont utilisables en conditions de flux, ils ont une certaine stabilité, même s'il y a des phénomènes de corrosion, bien sûr, dans certaines conditions extrêmes. Alors, il y a des inconvénients. Je dois dire que une des raisons pour lesquelles moi j'ai fait de la chimie moléculaire et que au début je ne me suis pas intéressé à la chimie du solide, c'est parce que je trouvais assez, j'avais employé un mot extrême, mais assez insupportable de ne pas avoir, comme dans une molécule, une caractérisation absolument définitive et qu'avec un solide, on avait beaucoup de problèmes de savoir de quoi on parlait. Bon, en réalité, les choses ont fantastiquement évolué. Ici, je mets caractérisation difficile entre avec un point d'interrogation, parce qu'en réalité, c'est faux. Aujourd'hui, et je vous montrerai la semaine prochaine comment on fait, mais on a développé des technologies, en particulier de microscopie, qui sont telles qu'on peut, y compris aujourd'hui, étudier un matériau solide, y compris en voyant des atomes isolés. Donc il y a une grande puissance de caractérisation au contraire. Mais en même temps, pour bien le définir, le matériau, le problème, c'est qu'on est obligé de déployer une très grande multiplicité de techniques. Une seule ne suffit pas, alors qu'avec une petite molécule, un cristal et une diffraction suffit. Donc, large de distribution de sites actifs différents. Je vous ai montré les défauts à la surface d'un solide. Il y en a plein, différents, et donc ce n'est pas toujours très facile d'identifier le site actif. Et puis, d'une certaine façon, contrairement à la chimie homogène ou la catalyse homogène, où on peut de façon rationnelle se dire « Ok, je vais rajouter un groupement électro-attracteur parce que je sais que si je fais ça, ça va avoir telle conséquence », dans le cas d'un solide, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Les spécialistes de chimie du solide auront peut-être des points de vue différents, mais je pense que le design, l'élaboration, la synthèse de ces matériaux solides est un peu moins de rationnel. Et peut-être une modulabilité limitée, mais c'est peut-être pas vrai. Alors, est-ce qu'on a un peu de rationnel, quand même ? Alors, quand on élabore un matériau solide pour faire de la catalyse, on a quand même quelques éléments sur lesquels on peut jouer. Évidemment, la première question, c'est quel métal on prend. Alors, c'est des choses assez simples au fond, mais quand même qui sont utiles. Premièrement, en effet, on va se dire, si on veut un développement industriel, on va éviter les métaux nobles, rhodium, ruthénium, iridium, etc. On va se concentrer sur les métaux de transition, cobalt, nickel, manganèse, fer, etc. La deuxième chose, j'en parlerai la prochaine fois, c'est cette notion d'approche théorique qui a ses limites, mais qui finalement a été assez importante pour comprendre et pour prévoir. Bon, il y a une obsession aujourd'hui, et on comprend bien pourquoi, pour accroître finalement la densité de sites actifs par mètre carré, par surface. Eh bien, il y a cette notion de nanostructuration de la surface. Donc là, c'est une approche, enfin, c'est un critère utilisé de façon rationnelle pour rendre le système le plus nanoparticulaire. La notion de porosité, tout à l'heure, j'ai dit que les réactifs ne pouvaient pas passer à travers parce que c'était du solide, mais en réalité, on peut créer des porosités qui font que les substrats peuvent rentrer, accéder à un plus grand nombre de sites actifs, les produits ressortir facilement, etc. Ça, c'est quelque chose que je développerai aussi dans un cours. Ces surfaces sont extrêmement sensibles à tout un tas de choses qu'on leur apporte de l'extérieur, qui sont dans le milieu réactionnel. Ça peut être les électrolytes, des ions, ça peut être des molécules organiques. Et là, il y a quelque chose de très riche, pas encore très bien compris, mais il y a des effets assez colossaux. Et vous vous souvenez de cette diapositive dans laquelle je parlais de synergie molécules solides. Et en fait, là, on illustrera cet aspect-là. Évidemment, les solides, on les met sur différents supports. Ces supports jouent un rôle. En fait, le catalyseur lui-même, il est sensible à tout son environnement. Et c'est bien de ça qu'il faut. Enfin, c'est bien ça qu'il faut comprendre pour, en effet, avoir une modulabilité du catalyseur plus rationnelle. Bon, en gros, évidemment, la stratégie n'est pas simplement de dire bon, je prends n'importe quoi, ça précipite, je regarde ce que c'est. Comme je l'ai dit, il faut introduire du rationnel. Je viens de montrer comment on peut le faire. Mais en gros, vous avez deux stratégies. Soit d'augmenter le nombre de sites actifs accessibles. Hein. Alors, ça, comme je l'ai dit, ça peut se faire à travers des structurations, des morphologies différentes que vous contrôlez. Ça peut se faire à travers l'utilisation de supports plus ou moins conducteurs, plus ou moins nanostructurés. Il y a énormément de développement là-dessus. Ça peut se faire à travers un contrôle de la forme des métaux. Et puis, par ailleurs, vous pouvez jouer sur l'activité intrinsèque du site actif, hein, à travers, justement, vous voyez ici un exemple, ce qu'on appelle adsorba, mais un certain nombre d'éléments, ça peut être des ions, ça peut être des molécules, qui activent la surface encore un peu plus, spécifiquement, à travers l'association de deux métaux, dans des bimétalliques ou des alliages. Bon, voilà. Donc il y a quand même différentes façons de procéder. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi qui vient de 30 ans de chimie moléculaire, je suis un peu moins angoissé devant un solide. Et on commence véritablement aujourd'hui à avoir des outils qui permettent de réagir un peu comme dans les molécules. Et voilà, et c'est un monde que je découvre depuis quelques années et qui est assez merveilleux, je pense. Et en même temps, c'est peut-être intéressant que voilà, quelqu'un comme moi, et je ne suis pas le seul, hein, comme d'autres, venant du moléculaire, se propose de réfléchir au solide de façon un peu différente. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais faire cette introduction et cette introduction continuera un petit peu la prochaine fois. Et donc, il y a tout un tas de questions qui vont être posées une fois que vous avez tous ces éléments. Vous voyez, là-dedans, on va parler de... une chose importante que je vais développer, c'est la notion de catalyseurs homogènes qui deviennent hétérogènes. Est-ce qu'on peut transformer des catalyseurs homogènes en hétérogènes? Et ça, évidemment, ça lie les deux. Donc, c'est très intéressant pour le monde de la catalyse moléculaire et homogène. C'est qu'en effet, et vous verrez qu'il y a quand même des résultats intéressants, on peut continuer à faire de la catalyse homogène et en même temps la transformer en hétérogène. Donc, c'est essayer d'obtenir les avantages des deux dans un système. Ici, je parlerai, vous voyez ici la question, catalyseurs homogènes, est-ce qu'ils sont hétérogènes? C'est curieux comme question, mais en réalité, on s'aperçoit que dans les conditions assez drastiques d'utilisation de ces catalyseurs pour l'activation des petites molécules, dans des électrolyseurs, des piles, enfin, etc., eh bien, assez souvent, ces catalyseurs homogènes subissent des transformations qui les font devenir hétérogènes. Et il y a énormément de littérature qui a parlé de catalyse homogène alors que probablement il s'agissait de catalyse hétérogène. Et j'ai donc cette année un cours essentiel, enfin uniquement sur ce sujet-là, où vous verrez des exemples de grands débats qui ont eu lieu ces dernières années sur ces questions-là. Je parlerai, je l'ai évoqué, hein, de catalyseurs hétérogènes bio-inspirés. C'est la question que j'ai déjà posée. Est-ce qu'on peut traduire une information moléculaire en solide? Une information moléculaire venant des enzymes en solide. Ces fameux adsorba ou voilà, catalyseurs hétérogènes activés moléculairement, tout ce qui peut conduire à travers des interactions entre un solide et quelque chose d'autre à nouveau. Ici, c'est moléculairement, mais ça peut être des ions aussi, enfin des molécules. Voilà. Et puis... Et puis, les catalyseurs homogènes, je l'ai dit, c'est souvent des sites mononucléaires. Est-ce qu'on peut créer des sites isolés dans les solides et faire quelque chose qui ressemble à du moléculaire, mais qui est du solide? Et donc, je parlerai aussi de solides avec sites actifs isolés. Alors, tout ça, je le ferai à travers, évidemment, une analyse assez exhaustive de la littérature et à travers des illustrations de choses qui nous intéressent au laboratoire. Et je vous remercie.